Football maintenant. Avez-vous regardé le premier match de la saison hier entre les Buccaneers et les Cowboys? En termes de divertissement, une très, très bonne note sur 10. Je sais pas qu'est-ce qu'en pense Bruno Épais. Salut, mon Bruno.
Salut, Mario. Wow!
Sur l'échelle du divertissement, ouais, tu donnes combien sur 10? M'a dire une affaire. Moi, j'ai regardé ça en reprise en arrivant à la maison à minuit, là, puis sais-tu quoi? Mon enregistreuse, il me manquait 2 minutes à la fin, là.
Aïe, aïe, aïe! Pire scénario! T'es obligé d'aller voir ça. Aïe, aïe, aïe!
Ben oui, là, j'ai vu la dernière séquence en attaque sur Internet. Je dois dire que je voyais en parallèle la première demi pendant que j'étais en studio, mais je me forçais de pas regarder le score. Tu sais, je regardais les séquences.
C'est rien que j'ai jamais fait, puis c'est rien qui m'est jamais arrivé. À la fin d'un match, puis t'avais cédulé ça pour 3 heures. Ça a duré 3 heures, 5 minutes. Puis là, tu manques la fin, puis t'es comme, tu me niaises. Bon, mais moi, te le dire. Les Bucks ont gagné, Mario.
Oh, je suis au courant. Faut pas que tu donnes un pouce à Brady avec une couple de secondes à faire. Il va trouver ses receveurs. Il les a encore trouvés. Il vieillit pas mal. Le bonhomme a 44 ans.
Hein? Hey, qu'il a été bon. Puis, pense-y, là, son équipe a eu 4 revirements dans le match qui n'étaient pas la faute de Tom Brady. Là, pour la plupart des revirements, c'était des receveurs qui échappaient des ballons dans les mains, qui bifurquaient dans les mains d'un demi-défensif, mais en bout de ligne, malgré 4 revirements, on a réussi à gagner le match du côté de Tom Brady, qui encore une fois là, a démontré tout l'étendue de son grand talent. On se demandait pas, on savait qu'à 44 ans, il était encore en pleine forme, Mario, mais hier, il l'a prouvé de belle façon. Quelle prestation de Tom Brady.
Avec tout un challenge, là, parce que les Cowboys de Dallas, c'est sûr, aidés un peu par les revirements, ont mis des points sur le tableau. Puis juste pour ajouter sur la performance de Brady, on regarde toujours le pourcentage de passes complétées, mais il y a quelques passes qui auraient dû être attrapées. Puis en même temps, moi, quand je vois un gars être capable de lancer un Hail Mary en fin de demi, quitte à être intercepté, je me dis, lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner, tu sais.
Ben, exact. C'est drôle, parce que quand il a lancé le fameux Hail Mary à la fin de la première demi, on est en sub, on dit, est-tu encore capable de lancer ça jusque dans la zone des buts, de où est-ce qu'il
ben
est,
oui,
le terrain à son âge? Hey, non seulement il l'a lancé dans le fond de la zone de but.
Pas à peu
près. Il a encore un bon bras, puis tu l'as dit, là, son pourcentage de passes complétées, son nombre d'interceptions, il faut pas que tu regardes ça. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la façon dont il a contrôlé le match, et surtout la façon dont, à la toute fin, lorsqu'on lui a donné 1 minute et quelques secondes, ben il a traversé le terrain, puis il est allé faire ce que Tom Brady fait de mieux, gagner le match pour son équipe, puis il est revenu sur le banc comme si de rien n'était. C'était de, tu sais, tu regardais sa face, c'est comme, business as usual, là. Je viens encore une fois de gagner un match à la dernière seconde, mais c'est ça que je fais dans la vie. c'est très rassurant pour les Bucks.
Oui, puis surtout qu'ils ont commis des erreurs, puis je veux te parler des Cowboys un petit peu, parce que c'est quand même prometteur pour eux. Ça dépend comment tu analyses ça, là. On a vu des belles choses. Fait que pour les partisans des Cowboys, ils se disent peut-être, il y en a d'ailleurs qui en sont venus à la conclusion qu'ils vont peut-être gagner leur division, là, après avoir vu l'état de santé de Prescott hier, qui était capable de lancer le coin de 50aine de passes. Mais dans le cas des Bucks, si tu compares à l'an passé, à leur début de saison l'an passé, ils sont en avance pas à peu près. Fait qu'imagine, mais qu'ils soient rodés, ça va être dangereux, là.
Ben, pendant des choses, rappelons-nous, la semaine 1, il s'était fait battre, je pense que c'était en Nouvelle-Orléans, et c'était pas Jojo, là, la prestation des Bucks en attaque. Là, on a vu cette semaine, lors de la semaine 1, de la communication, des ajustements. On a vu Leftwich, le commentateur à l'attaque, étirer le terrain en plein contrôle Tom Brady et ses receveurs de la situation. Une ligne à l'attaque qui faisait bien le travail. Tu sais, c'est le jour et la nuit, là, parce qu'on se connaît depuis maintenant une saison morte. Ces joueurs-là sont tous ensemble et c'est pas de bon augure pour les autres équipes parce que les Cowboys ont réussi à donner un match, mais je le répète, avec 4 revirements du côté des Bucks. Ils feront pas ça toutes les semaines, là, les Bucks. Et malgré tout, ils ont réussi à gagner.
Te connaissant ancien demi-offensif toi-même, Bruno, t'as dû trouver que Dak, que Elliott, pas Prescott, mais qu'Elliott avait pas beaucoup le ballon. Donc, on a vraiment décidé d'y aller par les airs. Puis c'est vrai que Prescott a joué tout un match, mais au final, ils ont perdu.
Ben, c'est parce qu'en bout de ligne, Prescott a lancé 58 passes. Et en carrière, c'est statistique, lorsqu'il lance 50 passes ou plus, Dak Prescott, 1 victoire... 4 défaites. Ça peut pas être la formule. Il faut absolument que Ezekiel Elliott soit utilisé. Je comprends qu'on joue contre les Bucks. C'est l'équivalent d'essayer de courir contre un mur. Mais de voir Ezekiel Elliott finir avec 11 courses, je trouve qu'on a abandonné rapidement Ezekiel Elliott dans le champ arrière dans ce match-là. On aurait eu peut-être avantage à contrôler
à cause du pointage,
de temps de possession.
À cause du pointage, Bruno? C'est-tu parce que quand tu sais que l'autre club va mettre beaucoup de points, c'est t'as comme pas le choix, tu peux pas gaspiller du temps à l'eau au sol. Comment
ouais,
t'expliques ça?
On n'a pas eu beaucoup de succès en début de match et j'ai l'impression que Moore, le coordinateur à l'attaque, s'est dit, regarde, là, je vais y aller avec le bras de Dak Prescott. Chose qu'en vous dire, en bout de ligne, on a perdu de façon très honorable. Là. Et imaginez lorsqu'on va affronter une équipe qui contre laquelle on va pouvoir courir un peu plus, enlever ça sur les épaules de Dak Prescott. Moi, je pense que les Cowboys, tu fais bien de le dire, ça a rassuré beaucoup de monde, cette défaite-là. C'est une défaite très honorable contre les champions du Super Bowl qui ont ramené leurs 22 partants. Il n'y a pas de raison, après avoir vu ce match-là, de penser que les Cowboys vont être une mauvaise équipe, là, loin de là. Surtout qu'on a réussi à leur chauffer les fesses sans l'apport d'Ezekiel Elliott en attaque.
Exactement. Bon, regard sur notre dimanche. Je sais que tu vas y revenir avec Jérémy Rainville. Et je vais commencer pas dans la chronologie des matchs. Je vais commencer par notre intérêt à cause de Laurent Duvernay-Tardif puis du fait qu'on aime Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. Eux autres, c'est un match de fin d'après-midi, 4h25, dimanche. Et je vais commencer par Laurent qui s'exprime sur sa chronique sur RDS, dont je vais citer un tout petit passage. Et le titre de sa chronique, c'est un immense sentiment de fierté que d'être de retour avec les Chiefs, parce que Laurent écrit « Les 18 mois qui se sont écoulés depuis que nos vies ont été chamboulées par la pandémie de COVID-19 n'a pas été facile pour personne. » Et il rappelle que de son côté, il a fait un choix de ne pas disputer la saison 2020. C'est donc dans une toute autre optique que par les années passées. Je me suis présenté au camp d'entraînement des Chiefs à la fin du mois de juillet. J'avais le sentiment que je revenais de très loin. J'avais passé plusieurs mois à travailler en CHSLD sans avoir accès à un gymnase la plus grande partie du temps. Puis il y a eu ma fracture à une main en début du camp qui a ralenti ma progression et m'a fait manquer pratiquement l'entièreté des matchs préparatoires. Et malgré ça, j'ai tout de même réussi à percer l'alignement des 53 joueurs et je ne vous cacherai pas que ça m'a apporté une grande joie et une immense fierté. Je vous dirais même que ça faisait 6 ans que le début d'une saison des Chiefs avait été une telle source de réjouissance d'un point de vue personnel. Je citais Laurent Duvernay-Tardif. Commentaire, Bruno?
Bien, c'est de toute beauté de lire ça, puis c'est tellement vrai. De percer un alignement de la NFL, là, le monde, faut qu'on réalise, là, juste d'être invité dans un camp d'entraînement de la NFL lorsque tu es un joueur de football, c'est un grand accomplissement. D'être sur l'équipe de pratique à la fin de ce camp-là, c'est un grand accomplissement. De percer l'alignement de 53, c'est extraordinaire. Ça fait de toi un des meilleurs joueurs à ta position dans le monde entier. Et Laurent a pas joué l'an passé. Puis je vous le dis, là, moi, je vais faire une petite prédiction. Laurent Duvernay-Tardif va devenir le garde à droite partant des Chiefs avant la fin de la saison. Je suis convaincu de ça parce qu'il va y avoir des blessures. Là, c'est une recrue qu'on voit ici devant lui, Trey Smith, qui va débuter le match si on se fie à ce qu'on voit comme alignement partant du côté des Chiefs. Donc, on est à une mauvaise prestation, une blessure de voir Laurent avoir une chance d'être partant pour un match. Puis j'ai l'impression que si on lui mais qu'il ait cette chance-là, il va la prendre, puis il va rester partant pour les Chiefs.
Et c'est là que commence notre rafale, un survol des gros matchs qui nous intéressent dimanche. Donc, continuons avec Kansas City-Cleveland et le regard d'ensemble sur l'équipe de Patrick Mahomes et d'Andy Reid. Ils font encore partie de la crème, là, Bruno.
Ben, c'est la crème de la crème. Plusieurs les voient encore aller au Super Bowl. C'est une équipe remplie de talent. Patrick Mahomes, faut pas l'oublier, lors de son dernier match au Super Bowl, il était blessé. Il avait une ligne à l'attaque complètement anémique, avec plein de substituts dessus. N'avait pas une bonne protection. Là, on arrive avec une ligne à l'attaque revampée. On a Patrick Mahomes en pleine forme. Et l'ensemble de cette équipe-là revient. On a même ajouté certains joueurs pour venir améliorer en plus cette défense-là. Jaron Reed, entre autres, qui arrive des Seahawks. Les Chiefs sont excellents. Mais les Browns, tant qu'à moi, sont peut-être la deuxième ou la troisième meilleure équipe de l'Américaine. Et plusieurs prédisent qu'ils vont chauffer les fesses des Chiefs. Mm-hmm. Quelle plus belle façon de savoir ce que les Browns ont dans le corps que d'affronter les Chiefs à Kansas City pour commencer. Moi, j'ai hâte de voir cet affrontement-là parce que les Browns, sur papier, ont un des meilleurs alignements de la NFL.
Bon, je reviens un peu plus tôt dimanche là pour commencer l'après-midi. Quelques matchs intéressants. Je pense que le plus intéressant du groupe, je pense que c'est celui que vous faites à RDS, Buffalo-Pittsburgh, les Steelers qui viennent de s'entendre avec le frère de J.J. Watt, T.J. Watt, notamment. Mais dans l'ensemble, Buffalo, à qui tu as prédit une participation au Super Bowl. Donc, Buffalo devrait gagner ça dimanche contre les Steelers.
Ben, ça sera pas facile, par contre, parce que là, c'est force contre force. Josh Allen, que je vois peut-être même être un des prétendants, en tout cas assurément un prétendant aux joueurs par excellence, arrive avec une attaque qui était une des meilleures de la NFL l'an passé. Puis on affronte qui? On affronte T.J. Watt et une des meilleures défenses de la NFL, un front défensif terrorisant. Donc c'est force contre force dans cet affrontement-là, ce qui va venir peut-être faire la différence, en fait. Mis à part qu'il va gagner, évidemment, cet affrontement-là d'attaque contre défense, c'est de l'autre côté. Est-ce que Big Ben, à 39 ans, va être capable de connaître une très bonne saison et une bonne début de saison après avoir été mauvais, il faut le dire, lors de la fin de saison passée? Il arrive à 39 ans. Si sa ligne à l'attaque ne tient pas le coup, il n'a plus la vitesse pour s'échapper. Puis sa ligne à l'attaque-là a été complètement revampée dans la saison morte. Moi, j'ai bien hâte de voir, mais tu as raison de dire, je pense que les Bills partent favoris dans ce match, mais pas par autant qu'on peut penser.
Début d'une nouvelle ère pour les Saints de la Nouvelle-Orléans avec le départ de Drew Brees, qui était analyste d'ailleurs au match d'hier à la télévision. Ce sont ses débuts dans ce poste. Aaron Rodgers, qui est toujours un Packers de Green Bay. Match de fin d'après-midi, dimanche. Qu'est-ce que tu entrevois de ce côté-là?
Ah ben écoute, c'est Aaron Rodgers et son équipe extrêmement talentueuse. On sait qu'il y a eu beaucoup de tumulte dans la saison morte entre Aaron Rodgers et les Packers, mais on en a parlé, toi et moi, ça semble être au beau fixe. On se donne, comme un bon vieux couple, une deuxième chance de faire perdurer la relation. Puis on est équipé du côté des Packers. La seule chose, c'est la ligne offensive, qui est peut-être une des lacunes cette année. Mais contre les Saints et Jameis Winston, ça va être tout un affrontement. Les Packers partent favoris, c'est certain, dans cet affrontement-là, parce que Aaron Rodgers affronte de l'autre côté un Jameis Winston qui, lui, va tenter de relancer sa carrière avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. On a bien hâte de voir comment il va se débrouiller. Moi, je pense que c'est lui la clé, évidemment, du spectacle pour les Saints dans ce match-là. J'ai aimé ce qu'il a dit, première des choses, dans son entrevue. Il a remercié tous les premiers répondants, évidemment, en Nouvelle-Orléans, avec tout l'ouragan qu'on vient de vivre. Et la deuxième chose, il a promis de suivre dans les traces de Drew Brees. C'est-à-dire quoi? Protéger le ballon, prendre les décisions intelligentes sur le terrain, ce qu'on lui a toujours reproché de ne pas faire. Maintenant, est-ce que les bottines vont suivre les babines? Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça dimanche.
Congestion en fin d'après-midi avec les matchs qui sont présentés. Puis Miami-Nouvelle-Angleterre, bon, c'est ben, en tout cas, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a deux quarts arrière. Premièrement, j'ai hâte de voir à quoi vont sembler les Patriots cette année. Donc, c'est le kid qui va commencer au poste de quart, donc contre un gars qui connaît bien de l'autre côté, Tua Tagovailoa.
Oh, que j'ai aimé ça, que
tu dis son nom. Ouais, j'ai pris mon souffle, puis je touchais du bois quand je me suis embarqué là-dedans.
On va l'appeler Tua, puis l'autre, ouais, c'est plus facile, il s'appelle Mac Jones.
Bon, mais Tua puis Mac, tiens, c'est réglé. Mac Jones, Mac, hey, ça rappelle les amateurs des Expos, il y avait un Mac Jones avec les Expos, tu savais ça, Bruno, hein?
Dans les premières années. Tu me rafraîchis la mémoire, là, tu me ramènes dans mes souvenirs d'enfance, quasiment. Là.
Exactement.
Mais oui, écoute, deux anciens coéquipiers à Alabama qui s'affrontent. Mac Jones, qui, contre toute attente, mais a tellement impressionné lors du camp d'entraînement qu'on a délaissé Cam Newton, on l'a retranché, on a décidé d'y aller avec la recrue. Et il faut le dire, les Patriots, c'est une équipe qui ramène énormément de joueurs qui avaient décidé de prendre une année de congé pour la COVID.
Oui.
On a ajouté Matt Judon. On a ramené Van Noy. Écoute, on est défensivement beaucoup plus solide que l'an passé. Puis notre ligne à l'attaque est peut-être une des meilleures de la Ligue. Du côté de Miami, j'étais un petit peu plus inquiet parce que là, Tua, il a été ordinaire, on va le dire, même s'il a gagné la saison passée. Il n'a pas transporté cette équipe-là, puis là, il va devoir le faire cette année, particulièrement contre les Patriots, si on a l'intention du côté de Miami de débuter avec une victoire.
Et le match du Sunday Night Football, Chicago, les Bears et Los Angeles, avec leur nouveau quart arrière, Matt Stafford. Du côté de Chicago, c'est moins sexy au poste de quart. En 30 secondes, qu'est-ce que ça va donner le dernier match? Ben, enfin, il y aura le Monday Night, mais on s'en reparlera.
C'est l'inauguration du stade SoFi à LA. Première des choses, on a entendu ça pendant un an, donc ça va être bondé. C'est l'arrivée de Matthew Stafford avec les Rams, une équipe qui est bondée de talent. Définitivement, Matthew Stafford n'a jamais eu une équipe aussi bonne que celle-là. Donc là, il n'a plus d'excuses. Pour les Rams, tant qu'à moi, Matthew Stafford on veut viser le Super Bowl. Pendant que les Bears, avec Andy Dalton, ça risque d'être encore une fois très laborieux. Là. Oui, on a une bonne défense, mais Andy Dalton a été mauvais en pré-saison. Il a été mauvais l'an passé. Vivement à l'arrivée de Justin Fields, qui est le deuxième, une recrue qu'on risque de voir, je te dirais, à la semaine 4. Là. Je vais donner 3 semaines à Andy Dalton pour se planter. On n'aura plus le choix du côté de Matt Nagy. Il va falloir qu'on rentre notre corps numéro un, notre premier choix au repêchage du côté des Bears.
Bruno, sur ce, je te souhaite un excellent week-end. Couche-toi pas trop tard pour être en super forme dimanche pour la grosse journée de football et pour le plaisir de te reparler tout ça en début de semaine prochaine.
Yes, sir. Salut, Mario.
Merci beaucoup, Bruno. Et bon week-end de football à tous et à toutes. Dans quelques instants, Formule 1 au menu, Valtteri Bottas qui partira en tête de la course sprint qualificative demain. Lance Stroll qui, lui, va partir au 12e rang. Philippe Lagu vient nous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on anticipe pour le week-end.